Bonjour, vous écoutez l'épisode 49 du podcast Les Petits Plus Zen. On va parler aujourd'hui des frères et sœurs de la fratrie. Je m'appelle Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été pendant 22 ans professeure des écoles en maternelle RE+, et j'ai maintenant à cœur de vous accompagner sur votre chemin de parent pour mieux libérer les émotions de chacun, les petits et les grands, d'apaiser les rayures d'arc-en-ciel des besoins et de faire de magnifiques tequils en famille, en couple et en individuel aussi, puisque nous-mêmes avons besoin de temps de qualité avec nous-mêmes. Aujourd'hui, ce sujet des frères et sœurs, il m'a été beaucoup demandé sur Clubhouse et sur Instagram, donc j'avais envie de vous partager un petit peu la version des outils concernant la fratrie. À savoir que déjà avec un enfant, notre premier enfant, ça a été déjà parfois un peu compliqué de rétablir un équilibre au niveau des lieux, au niveau de l'organisation, au niveau du temps, au niveau de la répartition peut-être des tâches dans le couple. Et quand il y en arrive un deuxième enfant, peut-être un troisième enfant, voire un quatrième enfant, on est obligé sans cesse de se réajuster, de réharmoniser un petit peu les lieux, les limites, les règles, l'organisation, la répartition des tâches. Et ça met parfois en péril l'équilibre familial, donc l'arc-en-ciel des besoins de chacun et donc la cheminée des émotions de chacun dans la famille. Donc entre les enfants, ça peut être conflictuel. Entre les enfants et les parents, ça peut également être conflictuel. Donc on va tout déballer aujourd'hui, on va tout poser sur la table et on va trier. Une des pistes qu'on essaye en général quand on a un deuxième enfant, c'est qu'on essaye de prendre séparément un petit peu les goûts de chacun en fonction de leur âge, en fonction de leur activité, en fonction de leur emploi du temps. Et très vite, on se rend compte qu'on va être face à une problématique de temps, justement, que si on veut passer des tequils individuels avec chacun de nos enfants, ça va nous demander une organisation particulière, ça va nous demander une mise en place de règles, une mise en place peut-être de roulement à la maison pour que le petit soit occupé pendant qu'on est avec le grand, pour que le grand soit occupé pendant qu'on veut passer du temps avec le petit. Donc là, en amont, c'est pas très confortable, ça demande vraiment à la limite des sacrifices pour organiser du temps de qualité individuel. La deuxième possibilité, c'est d'arriver à suffisamment autonomiser chacun des enfants pour qu'il puisse lui-même s'accorder des temps de qualité, avec lui déjà, peut-être avec l'autre enfant, et de garder en contrepartie des temps où tout le monde y trouve son compte, donc de faire des tequils en famille, de faire des tequils entre les enfants et les parents. Et là, dans ce sens-là, c'est plus confortable parce que l'enfant a déjà son réservoir affectif nourri par ses activités en autonomie, par ses activités indépendamment de la vie du reste de la famille. Et en complément, il panache finalement les activités en solitaire et les activités avec ses frères et sœurs et les activités avec chacun des parents ou les deux parents ensemble ou toute la famille ensemble. Donc ça permet plus de souplesse dans l'emploi du temps et ça permet surtout de nourrir un peu les rayures des arcs-en-ciel en fonction de celles qui clignotent chez tout le monde en même temps ou en fonction des émotions de tout le monde en même temps. C'est difficile d'accorder l'énergie du petit dernier à l'emploi du temps du grand. C'est difficile d'accorder l'émotion de tristesse d'un des parents qui a des difficultés professionnelles à l'énergie du petit. Donc pour temporiser un peu tout ça et pour harmoniser un peu tout ça, on peut voir le plus urgent à chaque fois et comment le glisser dans l'emploi du temps. La petite difficulté également, c'est que entre enfants, il y a parfois cette sensation d'injustice, cette sensation d'inégalité, cette sensation de manque qui peut arriver très tôt pendant la grossesse, quand on annonce à l'enfant qu'il va être grand frère ou grande sœur. Ça peut déjà pointer ce doute de « mais est-ce que le deuxième enfant va prendre une partie de ma place ? Est-ce que le deuxième enfant va prendre une partie de mon temps ?» avec mes parents ? Est-ce que je vais être aimée autant quand il y aura un nouvel arrivant ? Est-ce qu'on va pouvoir accéder tous les deux, moi et le nouveau, à l'affection, aux rigolades, aux bons souvenirs ? Donc tout ça, c'est en partie inconscient, mais ça pointe le bout de son nez dès que la nouvelle naissance est annoncée. Et quand la nouvelle naissance est là, Il faut bien reconnaître que l'emploi du temps change du tout au tout, qu'il y a beaucoup de temps accordé au nouveau-né, au nourrisson, parce que son rythme est beaucoup plus instable que celui du grand frère ou de la grande sœur, parce que son rythme nécessite une proximité et une souplesse qui est difficile à accepter quand l'enfant, le grand, l'aîné, a 3, 4, 5 ou 6 ans. Il se sent tout d'un coup en diminution de pouvoir sur les décisions. C'est moins spontané, c'est peut-être moins énergique, puisqu'il va falloir se coordonner avec l'emploi du temps du bébé. Donc cette spontanéité, cette intensité, elle va peut-être commencer à clignoter sur ses rayures d'enfant. Nous, en tant qu'adultes, on va pouvoir être attentif à cette rayure d'autonomie, cette rayure de spontanéité, de découverte, d'exploration, en lui fournissant, en dehors des heures où on est avec le bébé, des temps de qualité suffisamment d'exploration, de créativité, des activités qui nourrissent son besoin de sens, qui nourrissent son besoin d'expression. Donc tous les derniers épisodes là, sur les fonctions exécutives, sur l'apprentissage, sur la créativité, vont pouvoir se mettre au service de l'équilibre dans la nouvelle fratrie, donc dans la récente fratrie pour l'aîné. Le petit, je ne vais pas trop en parler tant qu'il est nourrisson, c'est plutôt en grandissant qu'ils vont voir la diversité et l'altérité que j'ai évoquées dans les quatre étapes de développement de l'enfant. Si les deux enfants sont à des âges différents et à des étapes différentes, la communication va être importante. Si vous avez par exemple comme moi une petite de 3 ans et une grande de 14 ans, elles n'en sont pas du tout à leur même étape de développement d'identité et elles peuvent se rejoindre sur certaines activités, mais pas toutes. Elles peuvent se comprendre sur certaines activités, mais pas toutes. Et nous, on va être le point de relais en tant que parent ou en tant qu'enseignant ou qu'accompagnant entre les besoins de chaque étape de développement, entre les besoins de chaque âge d'activité. Donc il y a des moments, une fois de plus, où on ne pourra pas faire à 4, 5 ou 6 des choses qui nourrissent parfaitement tous nos besoins en même temps. Donc cette zone de compromis, on va la faire aussi bien entre les enfants qu'entre les adultes. Cette zone de compromis, elle existait déjà quand on n'avait qu'un seul enfant. Et là, elle est un petit peu démultipliée avec l'arrivée du nouvel occupant de la famille, donc du nouveau bébé. Si chaque enfant a sa cheminée des émotions bien présente en lui, bien consciente en lui, il va éviter surtout de faire reporter ses frustrations, ses colères ou ses tristesses sur l'arrivée du nouvel enfant. Et c'est en ça que c'est intéressant de lui expliquer tous ces outils-là dans la mesure du possible, suivant son âge, avant l'arrivée du frère ou de la sœur, pour qu'il puisse se dire « si je suis en colère, c'est pas parce qu'il y a un nouveau bébé, si je suis en colère, c'est parce que je trouve qu'on m'écoute moins » ou c'est parce que je trouve que je ne peux plus m'amuser comme avant, que j'ai moins de liberté. Donc ce n'est pas la faute du bébé, c'est plutôt une prise de conscience que ses besoins, que ses rayures d'arc-en-ciel sont moins nourris qu'avant, parce que l'organisation n'est pas encore rétablie pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc comme bien souvent, la naissance sera un déclencheur neutre, le nouvel enfant est arrivé dans la famille, c'est un fait, et c'est toutes les étincelles de pensée de notre cerveau qui vont pouvoir être remises en question, remises en perspective, peut-être démontées ou peut-être validées, suivant les pensées qu'elles nous annoncent, pour voir dans quelle mesure on va agir ensuite. Est-ce qu'on va rectifier l'emploi du temps? Est-ce qu'on va ajuster nos activités? Est-ce qu'on va développer ou demander à une personne relais de venir en complément de tout ça parce qu'il y a un nouvel enfant et que ça demande peut-être une personne relais supplémentaire. Donc sur votre éventail de stratégies, en fonction du nombre d'enfants, en fonction de chacun de ces arcs-en-ciel et en fonction de chacun de ces feux d'émotions, donc en fonction de chacune de ces cheminées d'émotions, va pouvoir se mettre en place plusieurs procédures, plusieurs options que vous allez analyser soit seul si c'est vous qui êtes chargé de la famille, soit en couple parental si vous êtes deux à décider. Quand l'enfant se sent responsable de sa frustration et de sa colère, il va pouvoir aussi de ce fait s'autonomiser et essayer de régler seul ses colères et ses frustrations, pour autant qu'on lui ait expliqué ce fonctionnement de la cheminée des émotions dont je parle à mes élèves dans le parcours émotizen très régulièrement. Cette façon d'analyser les faits extérieurs sont très importants pour la partie adulte, pour le rôle de l'adulte, en disant « ton frère a besoin de manger, je m'occupe de ton frère, je lui donne son biberon ou je lui donne le sein. Dès qu'il a fini de manger, on pourra faire une activité à trois. Ou dès qu'il a fini de manger, je le mets sur son tapis d'éveil et on se lit un livre ensemble. » Donc partir vraiment des observations les plus factuelles possibles, en ne reportant pas le « laisse-moi tranquille, je dois m'occuper de ton frère » parce que le « je dois m'occuper de ton frère » peut laisser entendre à l'aîné qu'il est plus important, qu'il est plus urgent, qu'il est plus aimé. Je fais des raccourcis grossiers, mais si on passe tout le temps avec le bébé, le grand peut se dire « j'ai moins d'importance, j'ai moins d'urgence, apparemment on ne s'occupe plus autant de moi qu'avant ». Donc par le dialogue, par la mise en place d'activités en individuel, par la mise en place d'activités collectives qui vont nourrir les besoins des enfants et les besoins des parents, on peut rétablir cette sensation qui est purement subjective d'injustice ou de déséquilibre que l'enfant pourrait trouver quand il y a un nouvel arrivant. Et puis fort heureusement, il va y avoir plein de moments sympathiques aussi avec le fait d'avoir des frères et des sœurs, parce que avec les frères et sœurs, ils vont pouvoir faire des activités communes, ils vont pouvoir se challenger, se défier, faire des petites compétitions et tester leur rayure d'identité, leur rayure d'autonomie, leur rayure d'expression d'eux, de collaboration. Donc ça va apporter aussi plein d'activités positives en dehors des parents. Ça va les lier à vie avec les frères et sœurs d'avoir cette connivence et cette expérience commune. Donc on va faire aussi la part des choses pour laisser les enfants maturer leur relation de fratrie, maturer leur relation filiale entre eux, pour que le lien se crée en dehors de nous adultes, pour que le lien se crée de la même manière qu'en classe, on laisse les élèves interagir entre eux, pour que le lien se crée, l'effet de groupe se crée en dehors de la référence de l'adulte, en dehors de l'autorité absolue de l'adulte. Il est toujours intéressant de dire à chacun des membres de la famille, des enfants comme des adultes, qu'ils ont leur part de responsabilité, qu'ils ont leur part de créativité, de ressources, et qu'ils sont à même de faire des propositions pour aboutir à des effets intéressants sur leur rayure de besoin. Suivant l'âge des enfants et l'écart d'âge des enfants, il va peut-être y avoir l'aîné qui va prendre en charge plus souvent la décision d'une activité ou le matériel d'une activité. Et puis très vite, on peut aussi répartir la charge de travail en demandant aux plus jeunes de collaborer, d'aider, d'être à l'écoute et d'être aussi à la participation des activités, pour ne pas laisser entendre que le petit ne sait pas faire. Par contre, le petit fait différemment, le petit fait avec son expérience. Donc d'une manière générale, on va éviter d'opposer les compétences du petit avec celui du grand, dans une idée de réciprocité, d'horizontalité, d'équité. Cette notion de jalousie, elle vient souvent parce qu'on a des impressions d'injustice entre le traitement de faveur du petit et le traitement de faveur du grand. D'ailleurs, j'en profite pour vous redemander si vous, dans la place que vous occupiez dans votre famille, vous aviez conscience de toutes ces notions-là, si c'est quelque chose qui vous a soutenu d'avoir un grand frère ou un petit frère, est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué, peut-être, si vous êtes enfant unique. Donc on peut revisiter à chaque instant des souvenirs qu'on a aussi, nous, de nos frères et sœurs, nous, de notre place dans la fratrie, et de voir si on traîne peut-être une petite braise dans notre cheminée concernant ce dossier-là. C'est une possibilité à explorer. Et concernant les enfants, ils ont une capacité, une flexibilité cognitive dont on a parlé dans les fonctions exécutives. Donc l'arrivée d'un nouvel enfant, au bout d'un moment, il sent bien qu'il n'a plus de pouvoir dessus. Cet enfant est là, Donc passer la surprise et passer le côté désagréable de l'arrivée de cet enfant, il va être possible pour lui d'en faire une sorte d'acceptation et de voir comment optimiser en fait la présence de cet intrus pour en faire quelque chose de positif, pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc il ne s'agit pas d'utiliser le nouvel arrivant comme moyen de satisfaction, mais il s'agit de faire sa part en disant « Bon, je sens que la petite sœur, bah, pendant longtemps, elle va peut-être prendre mes jouets, elle va peut-être pleurer, je vais peut-être avoir du mal à communiquer avec elle puisqu'elle ne sait pas parler. » Mais d'un autre côté, je peux participer à son bonheur, elle peut aussi m'apprendre des choses rigolotes ou m'aider à concevoir, à conscientiser que j'étais comme elle au début et que maintenant j'ai grandi, j'ai progressé. Donc dans la version du temps, c'est intéressant de voir aussi que tous les enfants ont été à l'âge de leur cadet, tous les enfants ont été à l'âge du nourrisson. Et qu'en grandissant, ils se rendent compte aussi du temps qui passe, de la puissance qui grandit, de l'autonomie qui grandit. Et dans ce sens, on peut aussi les valoriser en disant « Mais tu vois, tu étais aussi comme lui avant et je me suis occupée de toi pareil, je me suis occupée de toi pendant longtemps et maintenant tu sais faire tout seul, tu es plus autonome, tu es plus indépendant et je le fais avec ton frère ou je le fais avec ta sœur parce que lui, il est encore dans une certaine dépendance physiologique, affective et voilà, on transmet en fait notre manière d'éduquer au premier-né en lui montrant en incarnant notre façon d'éduquer le deuxième, le troisième ou le quatrième. Donc dans certaines cultures, ça va plus loin que ça. Hein. Dans certaines cultures, j'avais en plus des grands frères et des grandes sœurs qui s'occupaient des petits derniers, qui venaient les chercher à l'école, qui les faisaient goûter, qui les emmenaient au parc. Donc suivant la culture dans laquelle vous avez été élevé, les missions de grands frères et les missions de grandes sœurs sont peut-être différentes. La mission de l'aîné est peut-être un peu différente. Donc à vous de voir en tant que parent, si vous cautionnez cette sorte de responsabilité qui peut parfois être un peu pesante, de s'occuper de ses frères et sœurs au lieu de vivre complètement sa vie à soi. Mais je sais que culturellement, c'est quelque chose qui est très présent dans beaucoup de quartiers. Donc à vous de voir si vous voulez maintenir cette tradition ou si vous voulez la faire évoluer, peut-être en prenant une autre personne de confiance pour s'occuper des petits et libérer un petit peu la responsabilité des aînés. Donc à vous de voir, je ne prescrirai rien. Dans ce podcast, vous savez, je propose des angles de vue par rapport à ce que je vivais dans le quartier où j'ai travaillé pendant 22 ans. Certains grands frères et sœurs, quand j'évoquais la situation avec eux, étaient ravis de se sentir responsables des petits derniers. Et puis pour certains autres grands, ça paraissait parfois un peu empiéter sur leur zone d'intimité et sur leur zone d'autonomie, puisque l'emploi du temps des petits décidait en partie de leur propre emploi du temps et du coup de leur propre choix. Voilà, je laisse ça à votre appréciation en fonction de votre configuration familiale et puis aussi de l'âge entre les enfants. Si vos trois enfants n'ont que 2 ans d'écart entre eux, la question ne se pose plus de la même manière. Donc on va leur apprendre à chacun à se créer des tequils pour eux. On va leur apprendre aussi à voir dans quelle mesure un tequil peut être commun entre 2 enfants de la fratrie, peut-être entre 3 de la fratrie. S'ils aiment tous les 3 aller au sport, ils peuvent peut-être faire une activité sportive ensemble, ça pourra aussi les rapprocher. S'ils sont vraiment très différents, dans ce cas-là, ils feront des activités séparées, des activités peut-être artistiques, créatives. L'un peut aller à la musique et l'autre à la natation et trouver une autre activité commune, peut-être autour du dessin ou peut-être autour du jardinage. Donc de voir dans quelle mesure chaque enfant est bien respecté dans ses propres singularités, tout en restant ouvert à des ponts et des passerelles entre les différents enfants de la famille. Je vais faire une petite touche sur l'amour inconditionnel. Soyons vigilants quand on parle à l'un et que l'autre est dans la pièce, qu'il ne se sente pas toujours mis en compétition, en comparaison. Donc prenons soin de verbaliser et d'exprimer notre amour inconditionnel, quel que soit l'enfant concerné, quel que soit l'âge de l'enfant concerné, et de voir si au niveau verbal, au niveau physique, on est dans un rapport assez proche de quantité, de qualité, de gestes d'amour, de mots d'amour. Je vous parle de temps en temps des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Donc on en a parlé dans l'épisode 41 sur le couple. Cette notion d'amour, elle peut passer pour certains enfants par des petites attentions, des services rendus, pour certains autres par des petits cadeaux, pour d'autres du langage ou des câlins ou des caresses, et puis pour d'autres par des moments de qualité en solo. Si le papa adore l'escalade et que le petit dernier aussi, c'est un super moment de qualité à installer entre les deux personnes de la famille qui ont les mêmes loisirs. Ce ne sera pas au détriment des autres, ce sera en complément d'autres temps de qualité dans la fratrie. Au cas où il y aurait un conflit entre deux enfants, de la même manière qu'en cours de récréation, on intervient le moins possible pour laisser l'occasion aux enfants d'expliciter, de voir ce qui s'est passé dans la situation, de voir le déclencheur, de voir comment on pourrait trouver une solution ensemble. Je propose en général aux parents qui ont beaucoup de conflits à la maison d'observer et de se mettre un peu en recul pour laisser dérouler le processus aux enfants entre eux. Bien entendu, s'il y a un risque de violence, de danger ou d'agression verbale ou physique, le parent va intervenir, tout comme la maîtresse va intervenir dans la cour. Mais d'une manière générale, laissons un petit peu les enfants s'approprier les règles de société, les règles de communication et les règles aussi de régulation émotionnelle et physique, pour qu'ils puissent aussi tester leurs compétences sociales, leurs compétences intérieures et extérieures dans la relation avec leur sœur, avec leur frère. Ça va mettre beaucoup de temps, ça va être progressif, mais si on installe ça dès la naissance du petit, on peut avoir plus de chances de résultats et éviter peut-être un peu la jalousie intrafraternelle entre le grand, le petit et tout ça. Donc c'est notre posture qui va jouer, c'est notre façon de formuler les phrases, c'est notre manière de remplir le réservoir émotionnel qui donnera des résultats. Donc tout ça, ce sont des routes conjointes, ce sont des routes parallèles à mener pour que chaque enfant se trouve à sa place dans la famille, que chaque enfant soit aimé comme il est. Il ne s'agit pas de changer un des enfants, il s'agit de l'accepter dans son identité, dans sa singularité, et d'éviter au maximum de comparer les enfants entre eux, de comparer les âges entre eux. Le nouveau bébé qui arrive redistribue les cartes, fait évoluer la place de chacun et permet à chacun de réévaluer aussi sur sa propre rayure d'identité. Est-ce qu'il se sent accompli dans ses projets? Est-ce qu'il a d'autres envies? Est-ce qu'il est au clair avec ses valeurs, avec ses émotions? Donc à l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, on peut tout à fait réévaluer chacun individuellement et collectivement l'état de notre rayure d'identité. On peut aussi évoquer la question de territoire par rapport à la maison, parce que certaines familles dans le Réplus mettaient tous les enfants dans la même chambre, ce qui se comprenait très facilement parce qu'il n'y avait que 2 pièces la plupart du temps. Donc soit les parents dormaient dans le salon, soit toute la famille dormait dans la même chambre. C'était la réalité sociale et économique du quartier. Et là se pose la question de l'intimité de chaque enfant et de l'accès à une certaine zone de la maison, de l'appartement, pour lui tout seul. Ça me paraît quelque chose d'important, même si c'est juste une étagère, même si c'est juste un petit coin, mais ce coin n'est qu'à lui, ce coin est réservé. C'est vraiment un marquage extérieur de son identité, de son intimité. Donc si les enfants partagent la même chambre, c'est tout à fait possible de délimiter peut-être un espace pour l'un et pour l'autre, ou une étagère pour l'un et pour l'autre, ou peut-être même une façon de décorer différente, des posters de voiture pour l'un et peut-être des posters de judo pour l'autre, mais de marquer au niveau symbolique, au niveau extérieur, au niveau de la maison, une identité différente, une singularité différente. Pour que chaque parent puisse aussi trouver sa place au niveau des enfants, on peut peut-être régulièrement refaire le point aussi sur le fait qu'on passe un petit peu de temps avec chaque enfant, qu'on passe un petit peu de temps en fonction de nos goûts aussi. Il ne s'agit pas de se forcer à accompagner le dernier au match de foot tous les week-ends si vraiment nous, ça ne nous donne aucun plaisir. Donc de se répartir au mieux pour que l'enfant se sente accompagné dans ses activités, dans ses choix, dans ses projets, dans ses émotions, sans que ça mette en difficulté l'arc-en-ciel du parent ou l'arc-en-ciel de la relation de couple. Donc tout ça, ce sont des choses à discuter éventuellement entre adultes pour que, un petit peu comme un entraîneur de foot, fasse le mieux possible des ressources de chacun de ses joueurs. Si on reste dans la métaphore du foot, l'entraîneur, il peut très bien proposer des exercices différents en fonction des compétences de chacun des joueurs, et ça ne met pas en péril l'équipe, au contraire, ça va la renforcer. Donc si un des parents est très porté sur les activités de loisirs créatifs, il va plutôt s'occuper de cette part-là avec tous les enfants de la famille, et inversement, si l'autre parent est plutôt sportif, il pourrait s'occuper de cette zone-là, afin que chacun nourrisse en parallèle, en même temps, ses rayures d'arc-en-ciel mutuellement. Je vous donne cette indication parce qu'au tout début de l'épisode, on disait que si chacun fait exactement ce qu'il veut séparément, au niveau du temps, au niveau du calendrier, ça paraît difficile de mettre tout ça sur un calendrier familial, sachant que les journées ne font que pour tout le monde 24 heures. Ça, c'est vraiment incompressible. Au niveau de la semaine et de l'année, on peut aussi imaginer qu'en fonction de l'âge des enfants, il y a des échéances plus importantes à certains mois, peut-être le mois de son anniversaire, il va y avoir une attention peut-être plus intense sur ce mois-là pour lui. Et puis s'il y a une échéance scolaire, peut-être le grand qui passe le brevet ou le grand qui part à l'université, il va y avoir des mois où le focus et l'attention sera portée sur un autre enfant. Donc il ne s'agit pas de mettre à chaque semaine autant de temps pour chaque enfant. Il s'agit de trouver le juste dosage, le juste curseur entre l'émotion ressentie par l'enfant au moment où il en a le plus besoin et une certaine équité dans l'ensemble du mois ou dans l'ensemble de l'année, si vraiment on veut voir le calendrier sur une année, de faire le point régulièrement, de scanner un petit peu les temps d'échange pour qu'aucun des enfants ne se sente en retrait, ne se sente, même si c'est subjectif, un peu abandonné, de manière à ce qu'on refasse le point régulièrement, qu'on se fasse un petit conseil de famille, un petit temps en famille en disant « Est-ce que chacun se sent bien dans les activités proposées? Est-ce que vous avez d'autres idées ?» On peut aussi rebondir sur les idées des enfants pour nourrir la relation familiale, pour nourrir les relations inter-enfants. Ils sont toujours très force de proposition. On le voit en classe, hein, quand on fait des conseils en interne dans la classe, ils ont toujours plein d'idées pour améliorer la situation. Donc on peut compter aussi sur eux là-dessus. Voilà quelques pistes sur l'épisode. Je regarde rapidement si je vous ai tout dit. Je pense que j'avais à peu près noté toutes ces idées-là sur le réservoir. Je vais refaire un petit point. J'avais noté le mot médiateur. On a évoqué ça dans l'épisode 27, comment dialoguer un petit peu en communication non violente. Le fait qu'un adulte arrive dans une dispute d'enfant et le fait d'entendre un petit peu la situation qui peut différer hein, de l'enfant 1 et de l'enfant 2. Il peut y avoir un enfant qui dit « c'est pas moi, c'est lui », un enfant qui dit « j'ai rien fait », un enfant qui se place en victime ou un enfant qui se passe en « je sais tout mieux que l'autre ». Donc ça, c'est des situations qui se répètent dans la société, qui se répètent dans la cour, qui se répètent dans la famille. Donc j'invite toutes les personnes qui sont confrontées à ces conflits-là entre enfants, entre élèves, que ce soit chez vous ou dans un lieu public, à écouter au maximum et à se placer en reformulation, donc en reformulation extérieure, en médiateur, hein, en quelque sorte. C'est un métier à temps complet. Je salue Anne, avec qui je fais des binômes empathiques, qui est médiatrice de métier. Et de se placer en médiateur évite de rentrer dans ce triangle de « tu le préfères lui, de toute façon c'est toujours lui qui a raison » ou « à chaque fois c'est moi qui prends la punition ». Donc de rester vigilant sur notre façon de formuler la perception de la situation. On n'était peut-être pas là au début de la bagarre, on n'a peut-être pas vu le déclencheur, donc être assez attentif au récit de chacun des enfants, être assez attentif aux conséquences peut-être que la dispute a déjà fait sur leur cheminée. Peut-être qu'il y en a un qui est vraiment hors de lui et qui n'est plus capable d'écouter. Et dans ce cas-là, il serait peut-être utile de reporter la conversation ou la médiation. Et peut-être que, au contraire, il y a un enfant qui est vraiment en larmes, qui est au bord de quitter la pièce ou de claquer la porte. Et dans ce cas-là, au lieu de faire la conversation, on va plutôt aller vers lui, lui dire « Écoute, on va reparler de tout ça. Est-ce que là, tout de suite, tu aurais besoin d'un câlin ?» Je ne dis pas que c'est toi qui as raison, je ne dis pas que c'est toi qui as tort, mais on va aller au plus urgent sur ton arc-en-ciel, on va aller au plus urgent sur ta cheminée. Est-ce qu'avant de régler le conflit entre vous deux, on n'aurait pas besoin d'un petit temps de qualité maintenant ? Donc on peut décaler la résolution du conflit, on peut décaler la notion de faire la clarté sur qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a raison ou pas. La plupart du temps, ils veulent être entendus, ils veulent être écoutés, et le sujet de la brouille est finalement parfois dérisoire. Je ne dis pas tout le temps, mais ils sont plus là en train d'attendre que le parent reconnaisse leurs émotions, leurs sentiments, plutôt que de savoir finalement qui va récupérer le dossier en question ou qui va avoir raison sur le choix du dessin animé, de la soirée et tout ça. Si on prend le point de dispute de la plupart des enfants, que ce soit en classe ou à la maison, le point de dispute est futile et c'est plutôt la qualité du lien et la qualité de l'écoute de l'adulte qui va intervenir dans la dispute qu'ils vont retenir au final. Donc prenons soin de ce côté un peu médiateur qu'on va avoir en tant que parent, en tant qu'accompagnant, puisque une partie de leurs besoins, je vous rappelle, sur leur rayure de relation, c'est d'être entendu, d'être écouté, de ressentir l'empathie de l'adulte et de ne pas toujours se sentir nié dans leurs émotions à eux, dans leurs besoins à eux. Donc ça va être une partie de notre posture qui va décider du nombre de conflits dans la fratrie, du nombre de résolutions qu'ils peuvent déjà faire entre eux en dehors de l'intervention d'un adulte. J'ai mixé volontairement ce que je vivais en classe avec ce que je vivais aussi en dehors, avec peut-être mes neveux et nièces, tout simplement parce que mes filles, entre elles, n'ont pas les mêmes points d'intérêt au niveau des âges, au niveau de l'écart d'âge. Donc je n'ai pas le même conflit à la maison que vous pouvez ressentir entre votre fils de 3 ans et votre fils de 5 ans, qui pour le coup veut peut-être partager au même moment le même jouet, ou veut peut-être attirer l'attention du papa au même moment. C'est vrai que la configuration que j'ai me permet de plus évoquer des souvenirs vraiment plus larges au niveau scolaire, au niveau des récits des mamans qui venaient en entretien. J'espère néanmoins que tous ces éléments vous auront aidé dans votre observation des enfants que vous avez à la maison ou que vous avez en classe pour accorder au maximum le temps de qualité à chacun, tout en gardant aussi des temps collectifs entre vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose de me rejoindre soit sur Clubhouse, soit sur Instagram ou Facebook. Et puis peut-être que vous serez intéressé par le parcours autour des émotions que j'ai mis en ligne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on parlera des livres et de leur place dans la vie de l'enfant. À très vite. Au revoir.